infos sur VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, c'est VOA Afrique, le monde aujourd'hui. Au micro, Nicolas Pinault et Anne Albertson, ce matin, à la une de notre émission.
Nouveau code électoral adopté au Burkina Faso, les partisans de Blaise Compaoré exclus des prochains scrutins.
Le Conseil national de la transition a adopté la loi portant modification de la loi du 3 juillet 2001 portant code électoral.
À Kinshasa, les autorités tentent de faire taire les rumeurs après la découverte d'une fosse commune dans la capitale congolaise.
Le président du Burundi appelle ses concitoyens réfugiés au Rwanda à rentrer au pays.
La frontière maintenant sur le Rwanda est fermée pour empêcher que les Burundais continuent à fuir le pays.
Vos rendez-vous habituels après le journal La Minute Écho et le journal des sports. Qui organisera la CAN 2017 ? Réponse tout à l'heure au Caire pour départager le Gabon, l'Algérie et le Ghana. Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
À Ouagadougou, sans surprise, le Conseil national de la transition a adopté hier soir le nouveau code électoral. Le texte interdit aux partisans du président déchu Blaise Compaoré de participer au scrutin d'octobre prochain. Bagassikoura, le nouveau code électoral a été adopté à 75 voix pour, 10 contre et 3 abstentions.
Le projet de loi voté hier à une écrasante majorité rend inéligibles les personnes ayant, je cite, « soutenu un changement inconstitutionnel portant atteinte au principe de l'alternance démocratique ». Fin de citation. Ce texte, adopté dans l'euphorie générale, fait référence à la tentative de révision de la Constitution fin octobre par Blaise Compaoré afin de se maintenir au pouvoir. Cet entêtement avait finalement causé sa chute. De légères échauffourées ont opposé mardi matin quelques poignées de manifestants massés à un rond-point de Ouagadougou à la police qui les a dispersés. Enfin, notons que ce vote a eu lieu dans un contexte d'interpellation des membres de l'ancien régime, une demi-douzaine de proches de l'ex-président Blaise Compaoré, dont 3 anciens ministres ont été arrêtés lundi et mardi au Burkina Faso selon le CDP et plusieurs sources sécuritaires.
Toujours aucune nouvelle de l'otage roumain enlevé samedi dernier dans la mine de manganèse de Tambao. Le ministre burkinabé de la Sécurité a révélé hier que les armées américaines et françaises participent aux recherches aux côtés des troupes burkinabées. Auguste Denise Barry a aussi déclaré être en contact permanent avec les autorités maliennes et nigériennes dans le cadre de ces recherches.
21 ans après le génocide rwandais, Paris a fait un geste en déclassifiant hier ses archives sur le Rwanda pour la période 1990-1995. Cette décision de l'Élysée doit permettre de faire toute la lumière sur la politique française durant cette période. Kigali et son président Paul Kagame ont toujours mis en cause la France pour son implication aux côtés des génocidaires. Jean-Roger Bion.
La décision a été signée en présence de Dominique Bertinotti, ancienne ministre et mandataire des archives de la présidence de François Mitterrand, entre avril et juillet 1994. Quelques 800 000 personnes ont été tuées en une centaine de jours selon l'ONU. Les massacres avaient débuté au lendemain de l'attentat qui avait coûté la vie au président Hutu Juvenal Habyarimana. Le 6 avril 1994, Paris a toujours rejeté les allégations du président Paul Kagame au pouvoir depuis la fin du génocide, accusant la France de complicité dans les massacres.
9 soldats congolais, dont 3 officiers, ont été tués dans une embuscade tendue par des rebelles FDLR dans le Nord Kivu. Les militaires congolais ont été tués dans l'est du district de Masisi, selon le général-major Léon Mouchalet. À Kinshasa, la capitale, les autorités provinciales, elles, tentent de se justifier sur l'existence d'une fosse commune dans l'est de la ville. Robert Luzolanu Mavema, gouverneur par intérim de Kinshasa, a souhaité faire taire les rumeurs sur la présence éventuelle d'opposants politiques parmi les cadavres.
Vous savez, le grand problème, c'est qu'on voudrait faire le lien entre ces morts avec les morts du 19, 20, 21 janvier. C'est ça le problème. Donc, il n'y a aucun lien à faire. Ce sont les 421 personnes qui ont été enterrées, abandonnées, des indigents, des personnes non identifiées et la grande partie, c'est 300 morts-nés ou fœtus. Je voudrais réellement rassurer la population de Kinshasa. Nous ne tuons pas les gens. Qu'on cesse de nous raconter des choses, nous sommes prêts à subir n'importe quel questionnement pour pouvoir apporter la vérité dans cette situation.
Robert Luzolanu Mavema, gouverneur par intérim de Kinshasa, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire.
à Bangui. Verdict attendu aujourd'hui dans le procès de Omarik Vomitiadé, poursuivi pour viol d'une mineure de 16 ans. Le ministre centrafricain du tourisme, des arts et de la culture encourt plusieurs années de prison s'il est reconnu coupable.
À Lomé, c'est ce mercredi que la Synergie des travailleurs du Togo entend marcher pour exiger la libération des élèves arrêtés lors de récentes manifestations. Cette manifestation est interdite par le ministère de l'administration territoriale qui estime que la STT n'est pas légalement reconnue.
Au Niger, deuxième journée de grève pour plusieurs centaines de travailleurs d'une des deux mines d'Areva dans le nord du pays. Ils réclament au géant français du nucléaire le versement d'une prime.
À Dakar, un magistrat burkinabé a été nommé président du tribunal spécial chargé de juger Hissène Habré. La présidente de la commission de l'Union africaine, Kossazana Dlamini Zuma, a nommé pour 10 mois le juge Gberdao Gustave Kam pour présider la cour d'assises des chambres africaines extraordinaires. Aucune date n'a été fixée pour le début de ce procès contre l'ex-président tchadien, accusé notamment de crimes de guerre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, nouvelle affaire de violence policière aux États-Unis. Un policier blanc a été arrêté et inculpé de meurtre à North Charleston, en Caroline du Sud. Le policier mis en cause, Michael Slager, a tiré plusieurs fois dans le dos de la victime qui semblait s'enfuir. C'est ce qui ressort d'une vidéo diffusée d'abord par le New York Times et reprise par différents médias dont VOA Afrique.
Le policier risque la peine de mort ou 30 ans d'emprisonnement. Il a été transféré au centre de détention du comté de Charleston. Cet incident risque de raviver les tensions raciales aux États-Unis après la mort à Ferguson, dans le Missouri, de Michael Brown, un autre noir non armé tué par un policier blanc.
Aux États-Unis toujours, les 12 jurés au procès des attentats de Boston entament leur deuxième journée de délibération ce mercredi. Hier, ils ont délibéré pendant 7 heures sans parvenir à se mettre d'accord pour décider si Zohar Tsarnaev est coupable ou non des attaques qui avaient tué 3 personnes et fait 264 blessés. C'était le 15 avril 2013, en marge du marathon.
Au Yémen, la situation humanitaire est catastrophique à Aden. C'est le cri d'alarme lancé par la Croix-Rouge, alors que la grande ville du sud du pays est le théâtre de combats quotidiens entre rebelles chiites liés à l'Iran et les partisans du président soutenu par l'Arabie Saoudite. Selon un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, au moins 540 personnes ont été tuées et 1700 blessées au Yémen depuis le 19 mars. Sur le plan diplomatique, la Turquie et l'Iran sont d'accord pour arrêter la guerre au Yémen et encourager une solution politique. C'est ce qu'a déclaré le président iranien Hassan Rouhani après un entretien avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. De son côté, Washington annonce vouloir accélérer la livraison d'armes aux soldats de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite.
Le régime syrien se déclare prêt à fournir des armes aux organisations palestiniennes pour chasser le groupe État islamique du camp de Yarmouk, près de Damas. Sur place, là aussi, la situation humanitaire ne cesse d'empirer. Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Moqdad, a reçu une délégation palestinienne pour discuter des moyens de protéger les habitants du camp.
En Tunisie, 4 soldats ont été tués hier, 8 autres blessés dans une embuscade à Sbeitla, selon le ministère tunisien de la Défense. L'attaque a eu lieu dans la région de Kasserine, une zone d'activité de djihadistes.
Dossier nucléaire iranien, le Premier ministre israélien repasse à l'attaque. Sur Twitter, Benjamin Netanyahou a déploré que l'accord cadre conclu entre Téhéran et les grandes puissances ne comprenne pas l'arsenal de missiles à longue portée. Monsieur Netanyahou a en outre estimé que les bénéfices économiques après une levée des sanctions serviraient à Téhéran à financer les groupes radicaux au Moyen-Orient.
Le Premier ministre grec Alexis Tsipras est l'hôte de Vladimir Poutine mercredi. Monsieur Tsipras est arrivé mardi soir dans la capitale russe dans le cadre d'une visite de 2 jours à Moscou en pleine négociation avec les créanciers du pays, l'Union européenne et le Fonds monétaire international.
Enfin, on termine par de la musique. Cheb Khaled, le roi du rail, a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir plagié la musique d'un auteur algérien, Cheb Rabah, pour la composition de son plus gros tube international, Didi. Les explications, Nathalie Barge.
Dans sa décision, le tribunal a notamment condamné la star algérienne à restituer à Cheb Rabah une partie des droits d'auteur perçus grâce à ce titre, commercialisé à partir de 1991, et a payé 100 000 euros pour préjudice moral, plus 100 000 autres euros pour atteinte aux droits d'auteur. Son avocat va faire appel de la décision. Le tribunal a également ordonné à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique de modifier toute sa documentation concernant la chanson Didi. Cheb Khaled avait déposé la chanson à la SACEM en 1992 en se déclarant seul auteur du texte et seul compositeur de la musique. Le roi du raï, Cheb Khaled, a reçu de nombreux prix prestigieux et a vendu plus de 80 millions d'albums dans le monde.
C'est l'heure de la Minute Éco sur VOA Afrique. Pour en parler ce matin, Félix Yepassis Zembrou.
Deux élevages de dindes ont été placés en quarantaine en Ontario, dans le centre du Canada, après la découverte d'une contamination à la grippe aviaire dans l'une de ces fermes. Les autorités sanitaires canadiennes ont annoncé que toutes les dindes vont être abattues dans l'élevage touché à Woodstock, à un peu plus de 100 km au sud-ouest de Toronto. La ferme avoisinante a été placée en quarantaine pour éviter la propagation du virus. L'Agence canadienne des inspections des aliments, ACIA, a annoncé que de nouvelles analyses sont réalisées afin de confirmer la souche H5 et de déterminer le sous-type du virus. L'énergie géothermique au secours de la conservation d'aliments dans les pays en développement. Cette forme d'énergie renouvelable pourrait, d'après la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, minimiser les pertes de produits vivriers après les récoltes. Florence Tartana est experte en agro-industrie à la FAO.
L'avantage, c'est que c'est une ressource beaucoup plus durable, qui respecte davantage l'environnement. Et une fois qu'on a fait l'investissement, il dure, donc l'investissement est nécessaire au départ, mais ensuite il peut être utilisé sur de très longues années sans de nouveaux investissements.
La France, destination privilégiée des touristes mondiaux. Avec 83,7 millions de visiteurs en 2014, l'Hexagone demeure la première destination touristique au monde, a indiqué mardi le ministre français des Affaires étrangères, citant des chiffres provisoires qui doivent être publiés cet été. Les chiffres des deux premiers mois de l'année 2015 sont également encourageants, selon le ministre. Il cite en particulier une hausse de 38% et 65% respectivement pour les demandes de visa venant de l'Inde et de Chine.
Merci Félix, on passe au sport dans cette émission avec Bagassi Koura. Je le disais, le journal des sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
Alors, la grande question que tout le monde se pose ce matin, qui va organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2017.
On le saura probablement ce matin à l'issue de la 37e Assemblée générale de la Confédération africaine de football qui s'achève aujourd'hui au Caire. On saura alors quel pays de l'Algérie, du Gabon ou du Ghana aura l'honneur d'accueillir la CAN 2017 initialement attribuée à la Libye.
Et après cette annonce, la CAF procédera au tirage au sort des éliminatoires de cette 31e édition de la CAN. Autre décision prise hier, Bagassi, par la Confédération africaine, il n'y a plus de limite d'âge pour diriger la CAF.
Oui, le président de la CAF, Issa Hayatou, âgé de 68 ans, a annoncé hier que la limite d'âge jusqu'alors fixée à 70 ans pour occuper une telle fonction avait été supprimée des règlements dans un souci d'harmonisation avec les statuts de la FIFA. Tout obstacle à un nouveau mandat semble donc levé pour celui qui occupe son poste depuis 1988.
Élection à la tête de la FIFA. La Confédération africaine soutient Sepp Blatter.
Oui, le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, a réaffirmé ce mardi au Caire que l'Afrique soutenait fermement la candidature du patron sortant de la FIFA, Joseph Blatter. Ce dernier brigue un cinquième mandat à 79 ans et sous le feu des critiques, le Suisse Sepp Blatter, patron du foot mondial depuis 1998, sera confronté à trois autres candidats à l'élection le 29 mai à Zurich du président de la Fédération internationale de football et éclaboussé par les soupçons de corruption.
Un résultat en Europe, la Juventus de Turin s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Italie en gagnant sur le terrain de la Fiorentina 3-0.
Et puis enfin, Nicolas, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Atlanta, leader de la conférence Est, s'impose à Phoenix 96-69. Miami domine Charlotte 105-100. Défaite de Golden State face à la Nouvelle-Orléans 100-103. Enfin, San Antonio n'a pas fait de détails contre Oklahoma City. Victoire 113-88. C'est tout pour ce journal des sports. Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Au Burkina Faso, les partisans de Blaise Compaoré font grise mine ce matin. Ils ont été mis sur la touche en vue des prochaines élections du mois d'octobre. Le Conseil national de transition a en effet adopté le nouveau code électoral. Le texte met hors jeu tous ceux qui ont soutenu la tentative de modification du fameux article 37. Retour sur ce vote décisif pour les prochaines échéances électorales du pays avec Zoumana Wonogo, correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou.
Le Conseil national de la transition a adopté la loi portant modification de la loi du 3 juillet 2001 portant code électoral.
Ainsi a été voté le nouveau code électoral, avec pour soubassement la disposition du code qui exclut des prochaines élections certains partisans de Blaise Compaoré. Écoutons les explications de Chérif Sy, le président du CNT, le Conseil national de la transition.
On a dit que tous ceux qui ont contribué, soutenu une modification anticonstitutionnelle. Mais ce qu'il faut retenir, qui remet en cause le principe de l'alternance et qui conduit à une insurrection. Nous pensons qu'il n'y a pas d'exclusion. Donc, c'est là où c'est intéressant. Celui qui voudra contester la disposition est totalement libre de se pourvoir devant le Conseil constitutionnel.
Malgré ces explications, Boubacar Bouda, le président du groupe parlementaire Alliance pour la République et la Démocratie, composé des partisans de Blaise Compaoré, se voit dans la ligne de mire.
La formulation des conditions d'inéligibilité aux articles 135, 166 et 242, c'est une formulation, certes, qui est défendue dans l'esprit à l'avantage de permettre de sanctionner les auteurs de changements anticonstitutionnels. Nous disons que la rédaction trahit l'esprit tendant à voir X ou Y écarté du processus électoral. La formulation permettra d'appréhender toute personne qu'on ne voudrait pas voir participer aux élections. Nous nous sentons bien entendu visés. Pensons que comme nous sommes dans un état de droit, le Conseil constitutionnel dira le droit.
Si la disposition frappante d'inéligibilité a cristallisé les esprits, ce nouveau code porte aussi des innovations qui ont retenu l'attention de Hervé Kam, le porte-parole du Balai citoyen.
Trois dispositions nous satisfont particulièrement. L'interdiction des gadgets qui avait tendance donc à abuser de nos populations dans les campagnes. Et désormais, ce sont les programmes politiques qui vont faire la différence. Et l'admission des candidatures indépendantes, mais que le pouvoir de Chine ne voulait pas. Et enfin, la sanction politique qui a consisté donc à rendre inéligibles ceux qui ont participé à cette tentative de coup d'État constitutionnel-là. C'est un crime politique et y apporter une sanction politique est la solution qui se doit.
De ce code électoral, on retient que la caution pour la présidence passe de 10 à 25 millions de francs CFA. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
On reparle de la fosse commune découverte dans un cimetière de Kinshasa. Une enquête judiciaire a été ouverte hier et les autorités provinciales sont enfin sorties de leur silence pour expliquer l'origine des plus de 400 cadavres retrouvés. Eddy Isango a joint le ministre congolais de la Sécurité, Emmanuel Akweti.
Les services techniques de la morgue centrale de la ville de Kinshasa ont procédé à des éliminations collectives de quatre catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les personnes dont les corps ont été abandonnés dans les différentes morgues de la ville de Kinshasa qui les ont déversés à la morgue centrale de la ville. La deuxième catégorie, ce sont les corps de personnes non identifiées dont les services sociaux ont eu à ramener auprès soit de la morgue centrale de Kinshasa ou dans d'autres morgues des hôpitaux de la ville de Kinshasa qui, après un temps de conservation, l'immigration, les achemine à la morgue centrale de la ville. La troisième catégorie, c'est la catégorie des morts-nés, ainsi que enfin la catégorie des fœtus. Ces personnes ont été abandonnées ou ont été gardées à la morgue centrale pendant une période. Après enquête, la morgue devant libérer de la place procède de temps en temps à des inhumations.
Ce qui intrigue les organisations des droits de l'homme, c'est que l'enterrement a été possédé la nuit, mais aussi les nombres élevés des indigents et de ces corps abandonnés à Kinshasa.
C'est exact. D'après les services techniques de cette morgue centrale, par rapport au nombre important, on nous renseigne qu'il y a eu plus ou moins 300 morts-nés, 300 fœtus sur les 400 qui ont été enterrés pendant cette opération-là. Et puis, il y a eu 27 personnes dont le corps avait été abandonné dans la morgue de l'hôpital Saint-Joseph à Limité. Et une autre catégorie de personnes ont été acheminées à la morgue centrale par la morgue de l'hôpital général de référence.
Des cas de corps trouvés abandonnés dans des hôpitaux ou dans la rue, est-ce qu'on doit les enterrer la nuit?
Parler de la nuit, je ne comprends pas qu'on puisse parler de la nuit. Les services techniques nous disent que l'opération se passe à des petites heures du matin. Simplement parce que pour la plupart de ce corps, leur état est déplorable. Ils ont une dégradation suffisamment avancée et il n'est pas aisé de pouvoir traverser la ville avec les corps dans cet état pour des raisons d'hygiène, de salubrité, de commodité et de pollution.
Emmanuel Akweti, joint à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
L'afflux de ressortissants burundais au Rwanda voisin préoccupe les autorités de Bujumbura. Ils seraient déjà 800 à avoir choisi l'exil par crainte de violence dans leur pays. Lors d'un séjour hier dans la commune de Kirundo, dans le nord du Burundi, le président Pierre Nkurunziza les a invités à revenir sans crainte dans leur pays. Timothée de Langmaï a joint sur place Désiré Atungimana, le correspondant du service Kirundi Kinyarwanda de VOA Afrique.
Le chef de l'État rwandais, Pierre Nkurunziza, a rencontré les natifs de la commune de Kirundo pour parler de ces réfugiés qui quittent la province de Kirundo pour se rendre dans le Rwanda voisin. Il a indiqué que le Burundi est un pays de paix et il ne comprend pas pourquoi ces gens quittent Kirundo pour se rendre au Rwanda. Le président de la République a demandé aux habitants de Kirundo de contacter tous ces gens qui se sont rendus au Rwanda pour qu'ils puissent revenir au Burundi dans un pays de paix et de miel. Il a indiqué que tous ces gens qui sont partis n'ont pas de motif valable pour fuir au pays, raison pour laquelle ils doivent regagner le Burundi dans un délai ne dépassant pas un mois.
Quelle est la situation sur la frontière entre les deux pays?
La frontière maintenant sur le Rwanda est fermée pour empêcher que les Burundais continuent à fuir le pays. Ceci est consécutif à une descente faite par le ministre de l'Intérieur du Burundi au Rwanda, où le Rwanda a accepté de donner asile aux Burundais qui le veulent. Et par après, beaucoup de Burundais ont alors pris le chemin de l'exil. Et pour éviter cela, les frontières ont été momentanément fermées.
Quelle est l'ampleur de ces départs de Burundais vers le Rwanda? Quels chiffres avance-t-on?
Aujourd'hui, certaines gens avancent le chiffre de 800 personnes qui auraient déjà franchi les frontières, mais avec la fermeture des frontières, personne ne sort. C'est-à-dire que les Burundais n'ont pas aujourd'hui l'accès pour se rendre au Rwanda. Une situation que les associations des droits de l'homme considèrent comme une injustice pour les gens parce que chaque personne a droit de faire des mouvements librement.
Quelle a été la réponse des natifs de la région au propos du président Nkurunziza?
Les natifs de la province de Kirundo, à la tête le gouverneur de cette province, a demandé au président de la République que cette question soit traitée au niveau des deux chefs d'État, puisque aujourd'hui, en province de Kirundo, ils sont dépassés. Et c'est pourquoi ces natifs de Kirundo ont demandé au président de la République de contacter rapidement son homologue rwandais pour que cette situation soit décantée le plus rapidement possible.
Désiré Atungimana de VOA Afrique, joint à Kirundo.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Cap maintenant sur le Togo, où les jeunes sont invités à prendre en main leur destin dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques en leur faveur. Pour ce faire, des rencontres solidaires ont été organisées à Lomé. Sur place pour VOA Afrique, Kaylosson.
75% des Togolais ont moins de 35 ans. Mais malheureusement, cette frange de la population ne participe pas suffisamment au processus de développement dans le pays, a constaté la coordination des rencontres solidaires qui ont été instituées pour sensibiliser la jeunesse. Lovejoyce Amavi, coordonnateur national des rencontres solidaires.
Nous avons remarqué que la jeunesse, essentiellement togolaise, est toujours attentiste et donc attend qu'on vienne la chercher et qu'on lui apporte son avenir sur un plateau. Et donc pour ces rencontres solidaires, il était question pour nous d'inviter la jeunesse pour discuter de comment est-ce qu'elle participe au processus du développement du Togo.
Cette attitude attentiste des jeunes tire sa source du regard que les aînés portent sur la jeunesse, analyse Martin Bossou, représentant de la Jeune Chambre internationale Afrique et Moyen-Orient.
La perception que les aînés ont des jeunes réjaillit forcément sur l'attitude de ces jeunes. Les aînés considèrent les jeunes comme des hopeless, des gens qui sont sans avenir. Quand on ne te fait pas confiance, tu ne pourras pas te faire confiance toi-même. Quand on te dit que tu es incapable, que tu le veuilles ou pas, tu ne seras capable de rien. Donc il faut que les aînés nous donnent la chance de montrer de quoi nous sommes capables, qu'ils nous confient des responsabilités et nous assumerons.
Dans les pays les moins avancés, il est attendu chaque année environ 15 millions de jeunes sur le marché du travail. Et naturellement, la question de l'emploi et de la formation des jeunes a été débattue lors d'un panel au cours de ces rencontres solidaires. Compte tenu du contexte, le coordonnateur national des rencontres solidaires estime que les jeunes Togolais doivent définir leur propre projet d'avenir. Lovejoyce Amavi.
Il est important aujourd'hui de se dire, ok, dans 5-10 ans, j'aurai 30 ans, j'aurai 35 ans, 40 ans, mais qu'est-ce que je veux devenir à ce moment-là? Et quand on définit donc ce projet, il faut savoir qu'est-ce que nous pouvons trouver pour pouvoir atteindre cet objectif.
Les rencontres solidaires veulent donner à la jeunesse togolaise sa place de moteur de développement par des actions de veille permanente des politiques, programmes et mécanismes. Kailasson Lomé, VOA Afrique.
Retour à Washington, l'administration Obama doit se battre pour éviter que le Congrès, par ses actions, ne compromette les efforts diplomatiques des grandes puissances dans le dossier du nucléaire iranien. Un nombre croissant de parlementaires américains, républicains, mais aussi démocrates, estiment que le Congrès devra se prononcer sur tout accord final conclu avec Téhéran, comme nous l'explique Lionel Gaïma.
Pour le sénateur républicain Bob Corker, président de la Commission des affaires étrangères, un accord nucléaire avec l'Iran est trop important pour que le Congrès garde le silence. Je sais qu'il y a encore beaucoup de détails à régler dans les mois à venir. C'est pourquoi, au nom du peuple américain, le Congrès doit jouer un rôle. Le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat veut geler les sanctions contre l'Iran pendant 60 jours pour donner aux parlementaires le temps d'approuver ou de rejeter un accord final. Pour commencer, a-t-il fait remarquer, c'est le Congrès qui a adopté ces sanctions. La Maison-Blanche a menacé d'user son veto, le porte-parole John Earnest. Nous ne pensons pas que le Congrès devait pouvoir voter sur une proposition de loi avant juin, avec ses risques d'interférence dans le pourparler. Et nous n'envisageons aucun scénario qui nous verrait accepter des actions parlementaires qui saperaient l'autorité du président. Mais certains démocrates se joignent aux républicains pour appeler à un vote sur tout accord avec l'Iran. Parmi eux, Charles Schumer de New York, qui devrait être le prochain leader des démocrates à la Chambre haute. Si assez de démocrates appuient M. Schumer, le Congrès pourrait avoir la majorité de 2/3 requise pour passer outre à un veto présidentiel et bloquer la levée des sanctions demandées par Téhéran. Selon Ken Sofer du Centre for American Progress, le président Obama peut suspendre les sanctions, mais les éliminer nécessiterait une action du Congrès. Les parlementaires ont un rôle à jouer, mais pas celui dont ils parlent actuellement, a précisé Ken Sofer. On s'attend, et pour bientôt, à une intervention du Congrès dans cette affaire. La proposition de loi de Bob Corker pourrait être approuvée dès la semaine prochaine par la Commission des affaires étrangères du Sénat.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. 4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde assurée par Anne Albertson, Nicolas Pineau à la présentation. Je souhaite une excellente journée à tous. Avant de se quitter, saluons Manfing Doumbia à Bamako et Marcelin Mouetaminois à Bukavu dans la République démocratique du Congo. Comme retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info.